Kiosque Magazine.
Jeudi 18 décembre, déjà notre toute dernière émission de cette année. Ça a passé à une vitesse, mais c'est incroyable. De quoi allons-nous parler cette semaine?
Difficile, François, de terminer l'année sans parler de pétrole. Donc, on va encore se demander pourquoi son prix baisse. Alors, vous l'avez constaté à la pompe, hein, il a vraiment baissé cette fois. On suit ce mouvement depuis plusieurs semaines et comme d'habitude, hein, les prévisions des économistes ne s'accordent pas sur l'évolution du prix du baril. D'où l'intérêt de refaire l'analyse de la situation périodiquement et notamment en se reposant certaines questions sur les raisons de la baisse du pétrole brut et aussi cette éternelle question pourquoi la baisse du prix de l'essence à la pompe ne semble pas être vraiment proportionnelle à la baisse du brut. Ensuite, je vais vous reparler d'Amazon. Alors, d'une façon un petit peu particulière, et je m'expliquerai davantage quand on abordera l'article, qui s'appelle « Amazon va-t-il tuer le livre ?» Et on l'a souvent répété ici, le livre n'est pas un produit comme les autres. D'ailleurs, c'est pas un produit. Il n'a pas à se plier aux lois du marché. C'est le marché qui doit plier devant lui et assurer des privilèges pour garantir sa pérennité. Alors, sans doute, Amazon s'intéresse-t-elle plus au marché qu'au livre, malgré toute sa belle autopublicité. Alors, encore une fois, je m'expliquerai davantage. Je voudrais juste dire, là, dans cette petite présentation, Dieu merci, le disque n'a pas tué le concert. Est-ce qu'il en sera de même pour le gérant Vorace et le nain Delica? Et puis, difficile aussi de terminer l'année sans parler de la Chine. Elle s'est réveillée, le monde tremble. On prête à Napoléon, vous le savez sûrement, beaucoup de maximes, comme un croquis en dit plus long qu'un discours, ou tout ce qui n'est pas commencé, n'est pas terminé. Ce qu'il n'a jamais écrit, hein, puisqu'il n'a jamais rien écrit, sauf des lettres, 10 000 quand même, dans lesquelles on ne trouve pas ses phrases. Alors on lui prête aussi cette formule « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Si c'est pas de Napoléon, c'est quand même bien ancré dans nos esprits et beaucoup semblent penser qu'il faut trembler parce que la Chine s'est réveillée. Est-ce que c'est justifié?
Puisqu'on en a à parler des pays qui nous font trembler, je vais vous parler moi de Russie. On le sait, en Russie, ça va actuellement très très mal pour l'économie et il y a des risques d'instabilité politique très très fortes, instabilité dont le monde entier pourrait éventuellement souffrir. On parle également de gaz de schiste, puisque cette semaine, ça y est, le gouvernement Couillard a définitivement fermé la porte à l'exploitation des gaz de schiste. Mais quand je dis définitivement, c'est à tout le moins dans un avenir rapproché, dirons-nous, à court et à moyen terme, ce qui est déjà rassurant. Et pour commencer, je vais vous parler des négociations dans le secteur public, puisque le gouvernement provincial a déposé ses offres. On va voir de quoi y retourner et espérer beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les fonctionnaires concernés. Et tout ça, ça commence dans quelques instants. On le dit souvent, une émission d'économie, ça n'est pas sérieux si ça ne parle pas de pétrole régulièrement. Or, ces temps-ci, on en parle avec le sourire puisque le prix descend. Avouez que si vous avez rempli votre réservoir récemment, c'est quelque chose que vous appréciez.
Ben, tout à fait, mais pour tempérer votre enthousiasme, François, je vous poserai la question, les raisons de la baisse sont-elles durables? Et surtout, quelles sont-elles? On a l'impression qu'on n'a jamais de véritable explication puisque la question revient tout le temps. Mais autre question, bien concrète, celle-là, le consommateur final, que ce soit l'automobiliste ou le particulier, ne semble pas toujours être le vrai grand gagnant de cette histoire. Alors, ça a intéressé Hélène Baril dans la presse et elle a intitulé son article « Pourquoi le prix du pétrole baisse ?» Le cours du baril de pétrole accapare le haut des manchettes économiques depuis quelques semaines. Quatre questions pour comprendre ce marché baissier. Question 1. Le prix du pétrole est en chute libre et il est maintenant à son plus bas depuis 5 ans. Pourquoi ? Réponse, essentiellement, c'est parce que l'offre de pétrole a augmenté et la croissance de la demande a ralenti. Les États-Unis, grands consommateurs de pétrole, ont augmenté considérablement leur production grâce aux nouvelles techniques d'extraction. Le Canada produit aussi plus de pétrole, des sables bitumineux. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui produit le tiers du pétrole mondial et agit souvent comme régulateur des prix en réduisant sa production quand le prix baisse trop, a choisi de la maintenir au même niveau, ce qui a accéléré la dégringolade. Bon, tout ça tempéré par ce que vous évoquiez à propos du gaz de schiste à l'instant. Question 2. Pourquoi le prix de l'essence n'a-t-il pas baissé autant à la pompe? J'allais dire, c'est la question qui m'intéresse le plus, mais peut-être d'autres pensent comme moi. Réponse. Le Canada est devenu un important producteur de pétrole. Et quand le cours du brut baisse, le dollar canadien baisse aussi. Comme le pétrole s'achète et se vend en dollars américains, la baisse de la devise canadienne empêche les consommateurs de profiter pleinement de la chute des cours du brut. Le niveau de taxe élevé au Québec explique aussi que les prix à la pompe baissent moins vite qu'ailleurs au Canada ou aux États-Unis. Si ça peut vous rassurer, le niveau des taxes qu'on dit élevé au Québec est à peu près le double en France. Bon, question 3. Une baisse du prix du pétrole est-elle bonne ou mauvaise pour l'économie ? Réponse à l'exception des économies qui dépendent étroitement de l'industrie du pétrole, comme celle de l'Alberta, une baisse du prix du pétrole a généralement des effets positifs. En réduisant les coûts de production et de transport des usines du Québec et de l'Ontario, la baisse du prix du pétrole aide ces provinces à être plus concurrentielles. De même, les consommateurs qui paient moins cher pour rouler en voiture ou pour chauffer leur maison ont plus d'argent pour acheter d'autres biens et services, ce qui aide l'économie. Question 4. Est-ce que les bas prix actuels sont là pour de bon? Ah, là, on rentre dans la prophétie. Réponse. C'est la question que tout le monde se pose. J'oserais dire, c'est la question à laquelle personne n'arrive à répondre.
Ou n'ose répondre. Non. On peut se contenter de prier.
À long terme, les prix actuels ne peuvent pas durer parce que la production de pétrole est de plus en plus coûteuse, que ce soit avec les sables bitumineux, avec la fracturation ou à des grandes profondeurs en mer. Les prix pourraient toutefois rester bas encore longtemps parce que la croissance de la demande mondiale continue de ralentir. L'Agence internationale de l'énergie a encore révisé à la baisse hier ses prévisions de croissance à la demande mondiale pour 2015. Qui perd, qui gagne? Mazout, ça baisse pas vite. La baisse rapide du prix du pétrole brut n'a pas été suivie par une baisse aussi rapide du mazout pour le chauffage. Le prix du mazout à 90 cents le litre est pratiquement le même qu'il y a deux mois. Les raffineurs en profitent pour augmenter leur marge de profit. Tiens, tiens, je l'attendais celle-là. Selon les détaillants de mazout consultés hier. Consolation, ceux qui se chauffent au mazout seront les seuls à profiter d'une baisse de leur facture de chauffage cet hiver parce que les prix de l'électricité et du gaz naturel sont plus élevés que l'an dernier. Des oléoducs inutiles pour TransCanada qui veut investir 12 milliards dans un oléoduc qui acheminerait le brut canadien vers les provinces de l'Est vers l'Europe. La chute rapide du prix du pétrole ne change rien à court terme. L'entreprise a signé des contrats à long terme avec les producteurs de pétrole pour transporter 1 million de barils par jour. La baisse du prix du pétrole n'a pas d'impact sur la demande de ces producteurs qui espèrent obtenir un prix plus élevé avec ces nouveaux marchés. La baisse du prix à la pompe pourrait représenter des économies de 2 millions pour la ville de Montréal la prochaine année. La métropole doit renouveler la semaine prochaine son contrat d'approvisionnement avec Énergie Valero et Pétrole Parkland. Dans ses estimations, la ville prévoyait payer 7,5 millions au cours de la prochaine année, mais la baisse des prix à la pompe pourrait faire grandement baisser la facture. Montréal consomme en moyenne 6,8 millions de litres de carburant annuellement. Chaque baisse de 1 sou représente ainsi une économie de 68 000 $ sur une période d'un an. Ainsi, la chute de 30 sous observée devrait se maintenir. Montréal pourrait alors économiser 2 millions. Un baume pour la balance commerciale. La chute des prix de l'or noir stimule la consommation des deux côtés de la frontière. C'est un atout pour les manufacturiers exportateurs qui tirent déjà parti de la dépréciation du dollar canadien. Les coûts de transport, en particulier par camion, vont diminuer et favoriser ainsi le commerce transfrontalier. L'avantage principal, toutefois, se verra surtout dans les chiffres de la balance commerciale. Le Québec importe tout son or noir qui représente, avec les voitures et les ordinateurs, les trois sources de son déficit structurel. Peu de changements sur les migrations interprovinciales. Le fameux dicton « Go West, young man » perdra peut-être de son acuité. Mais en fait, ce « Go West, young man, and grow up with the country », c'est qui déjà, vous vous souvenez?
Oh non, je sais juste que c'est un président américain.
C'est ça, c'est
je
un
pense que c'est Jackson, mais je ne suis pas sûr.
Jackson, oui, d'accord.
Mais je ne suis pas sûr.
On vérifiera. Si un auditeur a la réponse, hein, il peut nous envoyer un mail ou passer un petit coup de fil. On citera son nom, on lui souhaitera joyeux Noël en direct. De 1986 à 2013, le Québec a toujours enregistré un solde migratoire interprovincial négatif. C'est seulement en 2006 et 2008 que l'Alberta a attiré davantage de Québécois que l'Ontario. La chute du prix du pétrole, qui va stimuler la production manufacturière, viendra renforcer cette tendance. L'Ontario devrait connaître la plus forte croissance au pays l'an prochain à 3,1%. Celle du Québec sera tout juste de 2%, ce qui est malgré tout très élevé. Bon, ben voilà, c'est une photographie finalement assez optimiste. Et puis on peut, après avoir lu cet article, conclure qu'on a de la baisse encore pour un petit moment. Alors faites vos réserves.
Mais faut-il le dire, la baisse peut aussi avoir des effets pervers. Je voyais notamment que dans la zone euro, la baisse du coût des carburants peut à elle seule mettre l'économie européenne en situation de déflation. C'est-à-dire que les choses vont coûter moins cher cette année que l'année d'avant, ce qui fait que les gens ne sont pas poussés à dépenser et à investir. Il y a donc un risque à ce que le pétrole baisse trop. Étrangement, là, c'est assez pervers comme effet, mais c'est une possibilité.
«
joyeux Noël, donc, et le gouvernement du Québec a déposé ses offres auprès des syndiqués de la fonction publique. Est-ce qu'il y a de quoi se réjouir? Personnellement, je pense que non, et on va voir pourquoi. Je laisse Jean-Robert Sans-Façon, en éditorial du Devoir, le 16 décembre, répondre à la question à ma place. Je suis assez d'accord avec lui. Le ciel en récompense. Avec la présentation d'offres patronales aussi restrictives aux 550 000 employés du secteur public québécois, il est difficile de croire qu'il sera possible d'en arriver à une entente négociée. Si les Québécois veulent des services de qualité, ils doivent s'attendre à payer. En réaction à la revendication d'augmenter les salaires de 4,5 % par année présentée le mois dernier par les syndicats du secteur public, le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, avait laissé tomber qu'il s'agissait d'une demande d'une autre époque. Or, après avoir pris connaissance des offres présentées hier par le ministre, on a plutôt l'impression que c'est le gouvernement qui veut revenir un demi-siècle en arrière, à cette époque bénie où les tâches de garde-malade et de maîtresse d'école étaient des vocations pour les femmes élues pour servir le Seigneur avec promesse de récompense après la mort. Les négociations en étant à leur début, il est trop tôt pour présumer du résultat. Avouons tout de même que la position de départ du gouvernement est la plus radicale présentée depuis longtemps et qu'elle n'annonce rien de bon pour l'avenir de la fonction publique québécoise. Alors que les employés du secteur public québécois subissent un retard de 38 % par rapport aux employés municipaux, de 21 % par rapport aux fonctionnaires fédéraux et de 13 % par rapport aux syndiqués du secteur privé, le ministre Coiteux leur demande d'être raisonnables en acceptant de creuser plus profondément ce fossé par des augmentations plafonnées à 3 % pour 5 ans. Et là, 3 % pour 5 ans, c'est rien la première année, rien la deuxième année et 1 % pour les trois années suivantes, ce qui est très, très, très en deçà de l'inflation, qui, elle, je vous le rappelle, on vise un 2 % d'inflation. En somme, en plus, oui, en plus, comme il veut repousser de 60 à 62 ans l'âge de la retraite sans pénalité pour ceux qui n'ont pas encore accumulé les 35 années de service exigées pour une pleine rente, cela incitera à coup sûr des milliers de salariés à quitter leur poste prématurément. Ce faisant, ils éviteront une pénalité dont le pourcentage est appelé à doubler pour passer de 4 à 7,2 %, en plus de subir une baisse de la rente désormais calculée sur le salaire des 8 dernières années plutôt que des 5. Lucien Bouchard n'aurait pas fait mieux. Cela dit, le gouvernement a raison de vouloir apporter certains changements au régime de retraite pour en assurer la pérennité et réduire l'augmentation des cotisations. En cela, l'idée de repousser progressivement l'âge du départ sans pénalité pour ceux qui n'ont pas accumulé 35 années de service tient la route. En revanche, l'augmentation de la pénalité actuarielle et la diminution de la rente pour tous sont des mesures d'appauvrissement inacceptables dans un régime qui n'offre à peu près pas d'indexation à long terme. Et dire que les députés ont droit à une rente sans pénalité après seulement 17 années et demie de service. Comment expliquer qu'on soit si dur avec ses employés, sinon parce que les trois quarts sont des femmes, du petit personnel aux yeux du gouvernement, et qu'on soit toujours aussi généreux à l'endroit des hauts fonctionnaires, des policiers de la Sûreté du Québec et des monteurs de lignes, techniciens et ingénieurs d'Hydro-Québec? En conférence de presse hier, le président du Conseil du Trésor a invité les syndicats à ne pas aborder ces négociations dans un esprit d'affrontement. C'est quand même hallucinant de dire un truc pareil. Il devait rire dans sa barbe, le ministre, en s'entendant prononcer ces mots. Si les Québécois et leur gouvernement tiennent au panier de services publics essentiels, ils doivent accepter de payer à leur juste valeur les employés compétents nécessaires pour les offrir. Et j'ajoute ici certaines choses. On vient de parler du salarial, mais dans le normatif aussi, Québec exige des compromis. On voyait qu'avec les enseignants, par exemple, Québec se prépare à ajouter des élèves dans chaque classe, donc augmenter le ratio élèves-enseignants, et exiger 2 heures de plus de travail par semaine pour tous les enseignants. Ça, c'est sans compensation. C'est hallucinant de faire des demandes pareilles.
Oui, et ça remet du tout en question le fond de l'article, qui, je crois, exprime des idées très justes, et vos commentaires l'étaient aussi. Mm-hmm. Je voudrais vous donner un tout petit point de comparaison avec la France, un ancien pays dans lequel j'ai vécu. Eh bien, le nombre d'années de service, il est de 42 et non pas de 35 en France. Et le nombre d'années qui permettent le calcul de votre retraite, ce sont les 25 meilleures années. Donc, vous voyez, il y a un écart très, très important.
Oui, dans le calcul des rentes, effectivement, c'est très différent. Mais j'ajoute, puis il y a plusieurs choses qu'on peut aborder dans ce sujet-là, mais dans la vague actuelle d'austérité qui frappe le Québec, on dit toujours que tout le monde doit faire sa part. Et on demande à la fonction publique de faire sa part aussi. On oublie que les gens de la fonction publique, comme tous les autres, payent plus cher de garderie, vont payer plus cher en service, en taxation. Bon, le gouvernement va nous dire on n'augmente pas les impôts actuellement, mais tout le reste augmente, de sorte que l'an prochain, vous allez avoir 1 000 de moins dans vos poches.
Promets-moi que l'enfer existe. Mon Dieu, promets-moi que l'enfer
succès souvenir de Luc de La Rochelière, 6 pieds sur terre. Cette fois-ci, c'était interprété par Vincent Vallière. Je ne connaissais pas et je remercie Rémi Hermoso de me faire connaître cette orchestration-là, cette interprétation-là, donc qui est toute nouvelle pour moi. C'est le fun de découvrir ça, de succès souvenir. Deux petites nouvelles rapides avant de passer à votre texte. La première, il y a eu une erreur quelque part en Grande-Bretagne cette semaine à cause d'un fournisseur informatique du géant Amazon. Pendant à peu près une heure, beaucoup, beaucoup d'items se sont retrouvés en vente à un penny seulement. Alors, il s'est trouvé évidemment des consommateurs pour en profiter et acheter plusieurs centaines d'articles. Ils ont dû déchanter puisque Amazon a annulé les transactions et s'est excusé encore plus auprès des fournisseurs que des acheteurs, semble-t-il. Deuxième petite nouvelle rapide. Au Québec, en 2013, la vente de livres a progressé de 678 millions de dollars à 688 millions de dollars. C'est une bonne nouvelle puisque ces dernières années, la vente de livres a plutôt régressé. Alors, je vous laisse nous parler de Amazon qui vend des livres pour faire un beau lien avec tout ça.
Oui, ben merci d'abord de ces bonnes nouvelles, enfin en tout cas pour la deuxième. Donc, je voulais vous donner quelques explications sur le choix d'un article que j'ai été prendre dans La Tribune, qui, comme chaque assez, est un journal français. N'y voyez surtout pas un excès de chauvinisme de ma part et j'espère ne jamais subir une pareille l'appareil critique.
Oui, parce qu'on en a une tribune ici, et c'est à Sherbrooke, c'est le quotidien de la ville de
oui,
Sherbrooke.
Oui, ben j'aurais certainement dû l'éplucher avant de choisir celle qui vient de France. Mais néanmoins, j'y ai trouvé un article, alors, qui a un caractère un peu franco-français, parce qu'il parle d'Amazon et des relations d'Amazon avec le livre. Et la situation du livre en France n'est pas celle du Québec. Il y a la loi Lang qui oblige à payer le livre le même prix, ou quel que soit l'endroit où on l'achète. Il y a un certain nombre de barrières qui rendent la coexistence avec Amazon d'une autre nature que celle qui existe au Québec. Ça, c'est un premier point. Donc, je voulais qu'on se rende compte un petit peu de ce que pouvait être justement cette relation entre un produit particulier et un grand distributeur. Peut-être que ça pouvait permettre des réflexions ou des inspirations pour changer une situation qui ici est beaucoup plus dure, en tout cas pour ce qui est des relations entre le géant et le livre. Ensuite, je trouve que l'article que j'ai choisi est un petit peu en faveur d'Amazon. Et c'est ça aussi qui m'a intéressé, parce que je pense qu'il faudrait être plus prudent, plus critique, faire plus attention. Et que le rôle des journalistes, c'est peut-être aussi de défendre quelque chose d'ailleurs qui est un cousin par rapport à leur propre activité. Et ça ne m'a pas paru être le cas totalement dans cet article. Alors j'y voyais quelque chose qui relève peut-être un peu de l'inconscient collectif ou de la réflexion sociologique. Et donc, c'était la deuxième raison pour laquelle cet article m'a paru intéressant. Donc, je vous le livre. Pardon pour les prix en euros et les allusions à la France, mais c'est juste un point d'observation pour faire du comparatif. Donc, c'est Pascal Perry qui l'a écrit dans la tribune du 15 décembre. Et ça s'intitule « Amazon va-t-il tuer le livre ?» La France, notre vieux pays de culture, est traversée par un double mouvement apparemment contradictoire. Les Français plébiscitent les outils numériques, ils s'apprêtent à commander une partie importante de leurs cadeaux de fin d'année sur Internet, et au même moment, certains professionnels du marché de la culture dénoncent la concurrence évidemment déloyale d'Amazon, devenu le premier libraire du monde. Là, j'aime pas cette expression, le premier libraire du monde. Pour moi, le libraire, c'est un truc tout petit dans mon quartier, à 2 mètres avec un vieux bonhomme tout poussiéreux qui a lu tous les livres qui me vend. Et je voudrais vraiment pas que ça devienne autre chose. Bon, allez, amen. La communauté du livre obsédée par ses concurrents est obsédée par ses concurrents. Ce décalage s'explique. La communauté du livre est plus... excusez-moi, là, je bafouille, mais c'est parce qu'il y a eu un défaut de copier-coller.
Le sujet est important, allez-y.
Alors, je reprends. La communauté du livre est plus obsédée par ses concurrents que par ses clients. Elle a vécu très longtemps dans une situation de rente confortable, protégée par la loi sur le prix unique du livre. Donc, je rappelle qu'en France, la loi que Jack Lang a fait voter il y a maintenant une quarantaine d'années, elle oblige les vendeurs de livres, qu'ils soient libraires, supermarchés, ce que vous voulez, n'importe quoi, Internet, à vendre, à pratiquer le même prix. Il y a simplement une possibilité de 5% qu'utilisent de très grandes librairies, comme la FNAC,
en fait,
par exemple.
Si je me rappelle bien, la loi Lang date de 1981. On s'en est beaucoup inspiré au Québec pour savoir si on allait ou pas le faire. Le prix unique, c'était un débat l'an dernier. Enfin, je vous laisse aller.
43 ans. Et j'espère que ça sera le cas, parce que je pense que c'est une très bonne loi. Pour limiter l'influence de la grande distribution, la loi Lang a bloqué le processus concurrentiel, qui était en réalité un processus de découverte, comme le pensait l'économiste Frédéric Hayek. La concurrence est plus efficace pour élargir le marché, combattre les monopoles, que ne sont les politiques de régulation par le prix. Malgré les barrières légales à l'entrée du marché, un premier constat s'impose. Les Français lisent moins que par le passé. Bon, il faut prendre exemple sur les Québécois de l'an dernier. On vend en France moins de livres. La faute aux sollicitations multiples, la faute aux écrans sans doute, à commencer par celui de la télévision, la faute au prix aussi. Quand la demande de livres baisse, l'offre augmente. Le livre est par nature un marché dans lequel la demande est élastique au prix. La seule réponse qui a été opposée à ce jour par les éditeurs est étonnante. Une augmentation de l'offre a répondu à une baisse de la demande. Certains éditeurs se sont comportés comme des photocopieurs. Ils éditent plus de 10 ouvrages par jour, dont beaucoup seront lus par leur auteur et son entourage. Dans le secteur de la prescription, à l'exception de grands libraires qui font un travail d'accompagnement et jouent leur rôle de conseil littéraire, c'est le petit libraire dont je parlais tout à l'heure, trop de professionnels se sont comportés comme des magasiniers, organisant la rotation rapide des seuls best-sellers. À ce jeu-là, Amazon avait tous les arguments pour gagner le cœur des consommateurs. Faut-il d'ailleurs considérer Amazon comme l'ennemi absolu ? Les offres numériques sont incontestablement un défi pour les points de vente en dur, mais chacun possède des armes différentes. À cet égard, les chiffres donnent une idée précise de la géographie actuelle du marché. 100 000 titres vendus chaque année sont uniquement disponibles sur Internet. Internet vend plus de 80% des références disponibles, quand les libraires n'atteignent pas 70% selon des chiffres de 2012. Plus de trois quarts des livres vendus en livre ont un tirage inférieur à 1000 exemplaires. De ce point de vue, Amazon et les autres offres numériques soutiennent la création hors des grands courants commerciaux. Les petits auteurs peuvent dire merci à ces nouveaux acteurs qui, en réduisant les coûts de stockage et de logistique, permettent de servir un public exigeant. La diversité de la demande n'a pas à en souffrir. Au contraire, Amazon propose aujourd'hui un catalogue colossal, dont 800 000 titres constamment disponibles et prêts à l'envoi. Les entreprises de l'âge numérique ont un avantage concurrentiel décisif par rapport au point de vente. Dans une librairie, l'espace est précieux. Même les grands professionnels de Paris et des métropoles de province, comme Mola à Bordeaux, Soran à Montpellier, De Citre à Lyon ou Le Furet à Lille, là on a cité les quatre plus grandes librairies de province en France, en revanche, alors, ne peuvent prétendre et détenir et présenter autant de titres. En revanche, ces entreprises ont quelque chose qu'Internet n'aura jamais, du moins au même degré, la complicité avec le public, la valeur ajoutée du conseil, une relation communautaire forte. Merci de dire ça, parce que ça, il faut le dire, le redire, c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut préserver, c'est ça qui ne se monnaie pas, qui n'a pas de prix et qu'il faut absolument pouvoir rencontrer. Sous l'égide, je veux dire, moi je veux bien acheter mes petits pois moins chers sur Amazon, j'en ai rien à cirer, mais franchement mon livre, l'acheter comme ça et uniquement comme ça, non. Sous l'égide de son dirigeant, la FNAC, grande entreprise française du secteur de la culture, s'est réinventée et d'une certaine façon réenchantée. Je fais une petite parenthèse, moi si Amazon me proposait par exemple des émissions de... parallèlement à son activité commerciale, des émissions culturelles, des critiques, de la lecture à faire sur son site autre que de la publicité pour tout ce qui peut être acheté par n'importe qui, eh bien, je la regarderais d'un autre œil. Et je pense que ça ne lui coûterait pas vraiment très très cher de faire ça. Le cross-canal ou l'omni-canal répondent avantageusement à l'offensive commerciale des pure players, bravo l'article français là, de l'Internet. Un assortiment large online, ça continue, et la recherche d'une vraie expérience client en magasin. Les deux canaux se répondent et se renforcent. C'est là où on peut se dire, attention à ce que vous êtes en train de raconter, parce que en quoi ils se répondent et en quoi ils se renforcent. Moi, je serais partisan plutôt
en d'une... En fait, il faut bien comprendre ici, puis on en parlait souvent au Québec l'an dernier, on parlait de bibliodiversité. S'il y a 800 000 titres offerts chez Amazon actuellement, c'est parce que le libraire vous en offre beaucoup. Dans un marché où Amazon serait à peu près seul avec les grandes surfaces, on aurait probablement 1000 titres par année, 2000.
Absolument. Et après une emphase absolument extraordinaire pour donner une impression comme ça d'évolution, de plénitude, enfin tout ce qu'on veut, ça se rétrécirait comme une peau de chagrin et ce serait terrible. La révolution digitale est irréversible. Elle impose au commerce corporel une révolution darwinienne, utile aux consommateurs autant qu'à la filière de production. On peut bien sûr regretter amèrement les redoutables écarts de fiscalité entre les pays européens, membres d'un même espace économique, et c'est ça.
Vous écoutez Kiosk Magazine.
Au micro avec vous pour encore une demi-heure, parce que je nous avais pas présenté au début de l'émission, j'ai un petit peu honte, François Brodeur et Éric de Belval. Je suis François, il est Éric, voilà, je le dis. Donc, deuxième moitié d'émission, et on commence par vous parler des gaz de schiste. On se rappellera que voici quelques années, le gouvernement de Jean Charest misait énormément sur le développement du gaz de schiste qui était, semble-t-il, la manne pour le Québec. Eh bien, le BAP a rendu son rapport sur l'exploitation des gaz de schiste, et on va voir que ça n'a rien de favorable. Un texte de Martin Croteau, publié le 15 décembre, le BAP rend un rapport critique sur le gaz de schiste. L'exploitation du gaz de schiste va noircir le bilan environnemental du Québec et la province n'en retirera pas des avantages financiers suffisants pour compenser l'ensemble de ses coûts, conclut le Bureau des audiences publiques sur l'environnement, le BAP, dans un rapport rendu public hier. Il n'est pas démontré que l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste dans les basses terres du Saint-Laurent avec la technique de fracturation hydraulique serait avantageuse pour le Québec, peut-on lire en conclusion du rapport. Les forages dans le sud du Québec entraîneront une série de conséquences environnementales, constatent les commissaires. Ils craignent la détérioration de la qualité de l'air, l'augmentation du bruit et de la circulation routière, ainsi que la pollution des eaux de surface et souterraines. L'industrie pourrait également provoquer une hausse des émissions de gaz à effet de serre de la province de 3 à 23 % selon l'ampleur de son développement. Cela n'empêcherait pas le Québec de respecter ses engagements internationaux en matière de changement climatique, précise le BAP. En effet, les entreprises gazières devraient adhérer au système de plafonnement et d'échange des droits d'émission en vigueur dans la province, c'est la fameuse bourse du carbone. Les commissaires prennent acte de la profonde réticence de la population par rapport à cette industrie. Les forages auraient lieu en pleine vallée du Saint-Laurent, dans la partie la plus densément peuplée du Québec. La commission d'enquête a constaté que l'acceptabilité sociale de l'exploration du gaz de schiste, condition essentielle pour aller de l'avant selon le gouvernement, la majorité des intervenants en audience publique et les entreprises gazières elles-mêmes étaient loin d'être acquises, note le BAP. Québec toucherait des redevances de l'exploitation du gaz de schiste, mais vu le cours actuel et projeté de cette ressource, ces retombées seraient insuffisantes pour compenser les coûts et les externalités pour la société et l'environnement ou pour assurer la rentabilité de l'industrie. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que le BAP ici se penche non seulement sur les profits que les sociétés réaliseraient, mais les coûts externes, c'est-à-dire tout ce que ça coûte à la société d'installer des forages pour le gaz de schiste un peu partout. Et si on fait le total, ben c'est pas payant actuellement. Le gouvernement Couillard a accueilli avec prudence le rapport. En fait, le lendemain, Philippe Couillard disait renoncer à cette filière. Dans une déclaration écrite, le ministre de l'Environnement, David Hurtel, s'est dit conscient des inquiétudes et des préoccupations de la population par rapport au gaz de schiste. Québec avait annoncé en mai la tenue d'une étude environnementale stratégique sur l'ensemble de la filière des hydrocarbures. Les conclusions du BAP alimenteront cette nouvelle étude, a indiqué le ministre Hurtel hier. Pour l'opposition, Québec doit aller plus loin. Le député du Parti québécois, Sylvain Gaudreau, affirme que le gouvernement Couillard doit fermer la porte une fois pour toutes à l'exploitation du gaz de schiste. Il l'a fait, je le répète. S'il ne nous dit pas ça, ce sera une preuve supplémentaire que le gouvernement veut enfoncer le gaz de schiste dans la gorge des citoyens, a indiqué le député. L'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique abonde dans le même sens. Son président, André Bellil, estime que les conclusions du BAP sont tout aussi valables pour la filière du pétrole de schiste que Québec songe à développer dans l'île d'Anticosti. Partout où il y a de la fracturation hydraulique, il y a des problèmes de qualité de l'air importants, il y a des empoisonnements des nappes phréatiques, a souligné M. Bellil. Avant tout cela, avec tout cela mis ensemble, le jeu n'en vaut pas la chandelle pour le Québec. Évidemment, l'Association pétrolière et gazière du Québec a pour sa part plaidé pour la mise en place d'un projet pilote qui permettrait de démontrer la capacité des producteurs à minimiser les impacts sur l'environnement. L'organisme se montre toutefois fort critique des conclusions du BAP sur les retombées économiques de l'industrie. Pour l'évaluation des impacts économiques, nous ne reconnaissons pas au BAP l'expertise de procéder à des conclusions aussi hâtives, a indiqué l'association dans une déclaration écrite. La PGQ considère que la production du gaz naturel ici, même au Québec, a des avantages certains pour les communautés locales, de même que pour l'approvisionnement général de la province. Enfin, je pense personnellement que c'est une très bonne nouvelle qu'on soit pas pris avec le gaz de schiste dans les années qui viennent. Alors, grosse nouvelle, parce que selon la façon dont on compte, il semblerait que la Chine, ça y est, soit devenue la première économie du monde.
Oui, enfin, on a beaucoup commenté, c'est vrai, ces jours-ci, l'accès de la Chine au premier rang mondial en termes de produit intérieur brut, puisque son produit intérieur brut est passé devant celui des États-Unis. Mais vous savez, c'est ce que vous évoquez, c'est une mesure à relativiser. Si on compare la richesse en la rapportant au nombre d'habitants, vous avez une idée du rang de la Chine? 117e au monde, 117e.
Oui, mais ils ont beaucoup d'habitants,
oui,
ça compense.
Ben, évidemment, pour un point de comparaison, le Canada est 11e. En tout cas, ça a intéressé François Normand dans les affaires et la Chine s'est éveillée, le monde tremble est le titre de son article. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera, a déjà dit Napoléon. Enfin, a fait-on dire à Napoléon. Eh bien, c'est chose faite. La Chine est maintenant la première puissance économique de la planète selon le Fonds monétaire international. Un moment historique qui aura des répercussions économiques, financières et politiques. Ainsi calculé selon la parité du pouvoir d'achat, une mesure qui tient compte de ce que permettent d'acheter localement les devises pour un panier de plus de 3000 biens et services, le PIB, produit intérieur brut chinois, s'élèvera à 17 632 milliards de dollars américains en 2014, tandis que celui des États-Unis atteindra 17 416 milliards selon les prévisions du FMI. Bon, pas une grande différence, mais elle existe. Aujourd'hui, la Chine représente 16,5% de l'économie mondiale, comparativement à 16,3% pour les États-Unis. Nos voisins occupaient le premier rang depuis 1872, lorsqu'ils ont détrôné le Royaume-Uni. Cela dit, si l'on prend comme étalon de mesure le produit intérieur brut nominal, c'est-à-dire qu'on le calcule selon les taux de change officiels, les États-Unis sont encore la première économie mondiale. Hein. À ce moment-là, les chiffres sont différents. Ça fait 17 416 milliards de dollars comparé à 10 355 milliards de dollars pour la Chine. Toutefois, cette mesure est moins représentative que le PIB calculé selon la parité du pouvoir d'achat. C'est ce que disent certains économistes. De plus, au rythme où croît l'économie chinoise, ce n'est aussi qu'une question de temps avant qu'elle ne dépasse celle des États-Unis en PIB nominal. Bref, la tendance lourde est là. La Chine est devenue une économie, une puissance commerciale et un pays investisseur dominant le monde. La Chine reprend sa place au sommet. On parle souvent de l'émergence de la Chine, mais il faudrait plutôt parler de sa renaissance, soulignent les historiens. Car l'Empire du Milieu reprend en fait sa place au sommet de la hiérarchie des États dans le monde. Alors ça, moi, je le nuancerai un petit peu, parce que, soulignent les historiens, c'est un peu vite dit, il y a toute une vision historique de certains historiens de la Chine qui n'est pas du tout celle d'un pays expansionniste, mais au contraire d'un pays qui a vocation à se replier sur lui-même et qui est peu intéressé par l'extérieur. Donc attention, là, j'ai peur qu'on fasse un peu une projection occidentale. C'est la révolution industrielle et la montée en puissance des pays occidentaux, Royaume-Uni, France, Allemagne, États-Unis, qui ont déclassé la Chine, sans parler de l'occupation d'une partie de son territoire par les grandes puissances occidentales. Il va sans dire que la puissance retrouvée de la Chine a déjà commencé et continuera de chambarder l'ordre économique, financier et politique dans le monde, mis en place par les Américains à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le poids de la Chine fera en sorte que les soubresauts de son économie auront un impact de plus en plus important sur le Canada, qui exporte surtout des denrées et des ressources naturelles en Chine, notre deuxième partenaire économique après les États-Unis. Un ralentissement ou une récession réduiront par exemple le prix des matières premières, ce qui aura un impact important sur les bénéfices des entreprises de ce secteur au Canada. Des investisseurs institutionnels, comme la Caisse des dépôts et placements du Québec, tiennent d'ailleurs compte de ce risque dans leur stratégie de gestion de portefeuille dans le secteur des ressources naturelles au Canada. La montée de la Chine fera aussi en sorte que les entreprises et les investisseurs dans le monde utiliseront de plus en plus le yuan chinois, et vous avez certainement en mémoire tous les articles que nous avons lus sur le repli du dollar en tant que monnaie prioritaire. Voilà. En mai 2014, le yuan était la septième devise la plus utilisée. Ce n'est jamais que 1,47% des flux financiers, juste derrière le Canada, à 1,71%. Or, en janvier 2013, le yuan était au 13e rang. Historiquement, la plus grande puissance économique impose sa devise, car elle contrôle le système financier. C'est d'ailleurs pour cette raison que le dollar américain est encore la devise la plus utilisée dans le monde, c'est 41,63% des flux financiers en mai 2014, suivi de l'euro, 32,35%, de la livre sterling, 8,27%, et du yen japonais, 2,21%. La récente ouverture d'un centre d'échange du yuan chinois au Canada, le premier dans les Amériques, mais il y en a déjà d'autres en Europe et en Asie, illustre bien la montée inéluctable de la devise chinoise. Cela dit, le dollar américain va encore dominer le système financier international pour encore bien des années, voire des décennies, disent les spécialistes. Certains spécialistes. Un jour, toutefois, le yuan pourrait bien détrôner le dollar américain, comme ce dernier a supplanté la livre sterling après la Deuxième Guerre mondiale, et on s'en était expliqué ici. Les États-Unis pourront-ils éviter une guerre avec la Chine ? La montée de la Chine aura aussi un impact politique. Depuis la fin de la guerre froide et l'effondrement de l'ex-URSS, les États-Unis étaient la seule superpuissance de la planète. Depuis quelques années, les Américains perdent graduellement leur dominance sur la scène internationale. La Chine est en train de redevenir la grande puissance régionale en Asie-Pacifique, ce qui inquiète d'ailleurs des pays comme le Japon et l'Inde, alliés des États-Unis. Cela inquiète aussi les Américains et les Européens. Car après avoir installé son influence en Asie, la Chine cherchera aussi sans doute à l'étendre dans d'autres régions du monde. Ce qui représente tout un défi pour les États-Unis qui devront gérer la renaissance de ce géant tout en limitant les risques de conflit. N'oublions pas que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale ont été causées essentiellement par la montée en puissance de l'Allemagne et du Japon. Ça, excusez-moi, c'est un peu court et je pense que quand même, il faudrait revoir son histoire là, parce qu'il y a infiniment d'autres causes. Pardon. Aussi, une guerre entre les États-Unis et la Chine n'est pas impossible dans les prochaines décennies. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les liens économiques et financiers entre les deux pays ne sont pas un gage de paix. En 1914, l'Allemagne était un important partenaire commercial du Royaume-Uni, ce qui n'a pas empêché les deux pays de s'affronter deux fois dans la première moitié du XXe siècle. Reste à voir si les dirigeants américains et chinois auront plus de sagesse que les dirigeants européens il y a 100 ans. C'est très gentil cette analyse de fin d'article, mais elle me paraît un peu difficile à soutenir. En tout cas, il y aurait beaucoup, beaucoup d'arguments pour la contredire. J'ajoute une chose, c'est que cet article ne fait absolument aucune allusion à l'Afrique, dont je vous rappelle qu'en 2030, elle comportera 2 milliards d'habitants. Et ça sera amusant dans deux décennies de faire des comparaisons de produits intérieurs bruts.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more.
La voix chaude de Michael Bublé. Il n'y a pas que la Chine qui a la possibilité de faire trembler le monde, la Russie également, puisqu'il faut le savoir, en Russie actuellement, ça va mal. Et je vais vous donner quelques idées de ce que ça peut être grâce à un texte de Karim Talbi et de Germain Moyon de l'agence France Presse. Un titre qui s'intitule « Beau pléonasme, bravo François ». La Russie mise à mal. La Russie est entrée dans la très dangereuse spirale de la crise monétaire malgré les mesures radicales adoptées mardi pour enrayer l'effondrement du rouble, mettant en lumière l'impuissance de Vladimir Poutine dans une crise aux conséquences dramatiques pour la population. En 15 ans, à la tête de la Russie, comme président ou comme premier ministre, le chef de l'État n'a jamais géré une crise comparable. Et mardi soir, alors que le rouble n'en finissait pas de toucher le fond et que les Russes faisaient la queue pour transformer leur rouble dévalué en euros ou en dollars, ils n'avaient toujours pas pris la parole. Interrogé par l'agence France-Presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé de commenter la grave crise monétaire en cours, estimant que cette question économique relevait de la compétence du gouvernement, pas de la présidence, ce qui est un petit peu ridicule comme argument, puisque une bonne partie de la crise est imputable à la politique de la présidence. Pourtant, les indicateurs affolent les compteurs. Après un lundi marqué par une chute de 9,5% sans précédent depuis la crise financière de 1998, le rouble a plongé de plus de 20% dans l'après-midi de mardi. Ça veut dire pas loin de 30% en deux jours. Votre monnaie perd pas loin de 30% en deux jours. Si vous avez des comptes en banque, des fonds de pension, ça veut dire que vous venez de perdre un tiers de ce que vous possédez. L'euro a touché le seuil inimaginable de 100 roubles et le dollar 80 roubles, avant un rebond de la monnaie russe autour de 90 roubles pour un euro et 72 roubles pour un dollar. Côté bourse, l'indice Moscovite RTS a chuté de 12 % à son plus bas niveau depuis 2009, au point de donner des sueurs froides à Wall Street qui a ouvert en baisse avant de se reprendre. Cet effondrement de la monnaie russe que rien ne semble pouvoir arrêter est la conséquence directe des sanctions économiques décrétées par les Occidentaux pour punir l'attitude du président russe dans le dossier ukrainien et de la chute vertigineuse des cours du pétrole. Et la décision annoncée mardi du président américain Barack Obama de signer la loi adoptée par le Congrès autorisant de nouvelles sanctions, tout en gardant une marge de manœuvre sur la marche à suivre, n'est pas de nature à rassurer les marchés. Le plongeon du rouble a créé des inquiétudes immenses auxquelles Vladimir Poutine, boudé par les Occidentaux mais toujours populaire dans son pays, devra répondre jeudi lors d'un grand oral devant des centaines de journalistes russes et étrangers. Ça devrait déjà être fait d'ailleurs. La situation dans le pays est complètement instable. Cela fait très peur, s'est désolée Yulia, interrogée devant une banque de Moscou où s'était formée une file d'attente. « J'ai peur qu'on retourne à la situation des années 90 », a-t-elle ajouté, alors que certains experts et opposants libéraux n'hésitent pas à parler de pré-faillite de la Russie. Le rouble a perdu au total près de 60 % de sa valeur face au dollar depuis le début de l'année. Et la situation échappant désormais à tout contrôle, la Banque de Russie a annoncé au milieu de la nuit, fait exceptionnel, une hausse de 6,5 points de son taux directeur à 17 %. Le taux directeur est à 17 %, ce qui veut dire que si, par exemple, vous voulez prendre un emprunt hypothécaire, vous devez vous attendre à payer autour de 22 à 23 % d'intérêt. Ce n'est pas quelque chose qui va vous inciter à acheter une maison. Mais le soulagement aura duré moins de 2 heures sur les marchés mardi matin. Pour l'heure, la réponse des autorités est mesurée. Le premier ministre Dmitri Medvedev a convoqué ses ministres chargés du secteur économique qui ont défini des mesures visant à stabiliser le rouble en jouant sur les liquidités et soutenant le secteur bancaire, a expliqué le ministre de l'Économie Alexei Ulyukayev. Et ils n'ont pas discuté, en revanche, l'idée de restreindre les mouvements de capitaux en plafonnant, par exemple, les achats de devises. Cette hypothèse, redoutée par le marché, vu l'échec de la hausse de taux, consisterait un tournant, le Kremlin ayant promis de ne pas toucher à la liberté des échanges financiers. Ceci dit, je peux vous dire que jamais un gouvernement n'annonce à l'avance qu'il va restreindre les échanges de taux parce que, évidemment, il provoquerait l'effet inverse, tout le monde se précipitant pour échanger des devises. À la télévision, la présidente de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, a également averti que le retour du rouble à un niveau conforme aux fondamentaux de l'économie prendrait du temps. « Nous devons apprendre à vivre dans une nouvelle zone, nous orienter vers nos propres sources de financement et nos propres projets. » Et j'ajoute en terminant que la progression de la crise russe est quelque chose qu'il faut suivre puisque... ça déstabilise gravement l'économie russe et dans ces cas-là, il y a deux possibilités. On peut soit revenir en arrière, et dans ce cas-ci, il s'agirait de calmer les sanctions imposées par l'Occident, soit aller encore plus profondément en avant et s'enfoncer dans la crise en la niant. Et bon, je ne présumerai pas de ce que le gouvernement russe entend faire en l'espèce. Et c'est déjà le moment d'aborder des nouvelles brèves. Qu'avons-nous en stock?
Eh bien, de bonnes nouvelles, bien sûr. Les Canadiens sont endettés, mais pas inquiets. Hein, même si la Banque du Canada considère que l'endettement des ménages constitue le principal risque sur la stabilité du système financier canadien, eh bien, les consommateurs, eux, ne sont pas inquiets. C'est un sondage qui révèle que 8 Canadiens sur 10 ne sont pas inquiets et que 85% d'entre eux ont adopté des mesures pour réduire leurs dettes, figurez-vous.
Droit de scolarité pour les étudiants français au Québec, un sujet qu'on a déjà abordé ici. Je vous rappelle que les étudiants français paient actuellement la même chose que les étudiants québécois pour fréquenter nos institutions universitaires et collégiales. Eh bien, on savait que ça accrochait parce que, notamment, il y a 8000 étudiants français au Québec et seulement 1000 en France. Actuellement, on a convenu, semble-t-il, entre Paris et Québec d'une nouvelle entente qui fera en sorte que les étudiants français paieront désormais le même prix que les étudiants canadiens qui étudient au Québec, c'est-à-dire 6 200 $ plutôt que 2 200. C'est une hausse, oui, mais c'est une hausse beaucoup moindre que les 12 000 $ qu'on va exiger, par exemple, d'un étudiant américain ou d'un étudiant africain. Ceci étant dit, il faut aussi savoir, et ça, c'est une statistique qui m'a troublé, que beaucoup d'étudiants français viennent ici pour s'inscrire à McGill, apprendre l'anglais et s'inscrire dans une université américaine ensuite. Il y aurait même 900 étudiants français à McGill qui ont déjà une adresse aux États-Unis.
Et cette mesure prend effet quand, François?
Ah, ça va prendre effet à partir de l'an prochain, mais pas pour les étudiants qui sont déjà inscrits. Eux autres vont bénéficier d'un droit acquis, d'une clause grand-père qui va leur permettre de terminer leur cursus ici.
D'accord. On n'a pas parlé de marché immobilier depuis un certain temps. Ben, figurez-vous qu'on imagine qu'il y a peut-être une bulle immobilière au Canada. C'est ce que dit la Banque centrale du Canada. Et le marché résidentiel canadien sera, donc j'ai bien dit canadien, pas québécois, serait surévalué de 10 à 30%. Et les prix de l'immobilier ont augmenté en 2014 plus rapidement que les revenus. Par exemple, à Vancouver, le coût moyen d'une maison est passé de 727 000 $ en 2012 à 806 000 $ cette année, soit une hausse de 11%.
Et puisqu'on en est à parler de pouvoir d'achat, une très, très mauvaise nouvelle, celle-là. Je m'excuse de l'aborder brièvement, j'aurais aimé avoir plus de temps pour le faire. Et il faut savoir que le pouvoir d'achat en 2013 des Québécois a régressé. C'est-à-dire que vous pouvez acheter moins de choses cette année avec ce que vous avez gagné en moyenne en 2013 qu'avec ce que vous avez gagné en 2012. C'est la première fois que ça arrive depuis 17 ans. Et il est à craindre que l'an prochain, ce soit encore le cas, puisque à cause des politiques d'austérité actuelles du gouvernement provincial, eh bien, la facture fiscale va gruger encore plus votre pouvoir d'achat.
Les policiers de Québec, de la ville de Québec, abandonnent les jeans et les pantalons colorés pour revenir à l'uniforme officiel. Ben, on espère que les policiers de Montréal vont s'en inspirer parce que ça commence à bien faire. Et l'association locale a pris cette décision à la suite d'une rencontre entre les membres de la Fédération des policiers municipaux du Québec et tout simplement parce qu'on a décidé de décentraliser les moyens de pression. J'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais ça doit être une bonne méthode puisque les pantalons reviennent à la normale.
Tiens, une autre nouvelle. Le gouvernement du Québec a rendu public l'augmentation du salaire minimum qui sera effective le 1er mai prochain. Bien, il faut savoir que le salaire minimum à partir du 1er mai, donc, sera de 10,55 $, ce qui est une hausse de 20 cents l'heure, 9,05 $ pour les employés à pourboire.
La semaine dernière, François, vous nous avez parlé d'une nouvelle application pour savoir où on pouvait se stationner, puisque ce casse-tête est incompréhensible et les téléphones viennent à notre secours. Ben, il y a une application aussi pour survivre au déneigement. Hein, c'est bien utile. Et vous pouvez, parce que vous savez combien il y a de véhicules remorqués chaque tempête, 5000 à Montréal, c'est pas mal. Dont la vôtre, peut-être. Ben non, ben, votre moto, elle est tranquillement dans son garage, à l'abri de tout. Eh bien, cette application, elle s'appelle InfoNeige. Donc, je vous invite à la télécharger. C'est gratuit, c'est pratique, c'est génial.
Un sondage, tiens, qui a été fait à travers le Canada sur la réaction des Canadiens devant l'inégalité des revenus. Eh bien, il faut savoir que la plupart des Canadiens estiment que c'est un problème majeur et qu'il faut le corriger. Par ailleurs, même avec cette prise de position-là, les Canadiens sous-estiment l'état des choses. En fait, on surestime ce que les gens les plus pauvres gagnent. Et soit dit en passant, c'est rien. C'est-à-dire que si on regarde leurs actifs actuels, ils n'ont rien dans les poches. Alors qu'on sous-estime ce que les plus riches gagnent aussi. Donc, non seulement les Canadiens condamnent la chose, mais ils ne la voient pas.
Ben, tiens, à propos des riches et des pauvres, vous savez qu'il y a un usage amusant de Facebook et de Twitter là, qui est en train de se mettre en place. C'est la façon de traquer les locataires, les mauvais payeurs sur Internet. Alors bon, si vous avez un gros patrimoine immobilier, profitez-en. Hein, il suffit de faire de la dénonciation et de retrouver son argent par ce bon moyen. Oh, quelle belle société!
La terre a tremblé hier. Il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable. Je pense que François Ier, pape, ci-devant, a réussi son
François, premier... pas premier. Hein?
Oui, oui, non, c'est vrai, il s'appelle François. Oh. Il n'est pas encore premier. Quand il y en aura un deuxième, on l'appellera premier. Alors, François, donc, a réussi son premier miracle. Il a rapproché Cuba et les États-Unis, quoique le gouvernement canadien se targue de la chose également. Le résultat de tout ça, il faudra le voir, c'est le cours des cigares cubains dans les prochains mois qui pourrait monter.
Ah, dans la série La gabegie administrative, on l'adore. On a mis sur place un nouveau système. Vous savez, si vous avez le feu chez vous pour appeler les pompiers très, très vite, etc. Eh bien, dès qu'il a été utilisé, il est tombé en panne et on a dû immédiatement réactiver l'ancien système. Et hop, encore quelques millions de dollars à la trappe.
Une dernière, signe des temps, le groupe Cossette Communication, le fleuron de la publicité québécoise, est maintenant possédé en majorité par des intérêts chinois. Et ça, c'est quelque chose qui était inimaginable. Voilà. Seulement quelques temps. Il nous reste à peine quelques secondes pour vous souhaiter de très, très joyeuses fêtes. Une bonne année 2015. Pour notre part, on prend une pause de 2 semaines et on se retrouve dans 21 jours donc pour d'autres nouvelles Économie et emploi. On remercie Rémi Hermoso qui a assuré la mise en onde de cette émission et quelques choix musicaux. J'en ai fait aussi, je vous l'avouerai.
Joyeux Noël, François. Joyeux Noël à tous.